France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre du frère de Mohamed Merah, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Abdelkader Merah a été condamné hier soir à une peine plus lourde qu'en première instance, 30 ans de prison donc. En première instance, il avait écopé de 20 ans de réclusion. Cette fois, la cour d'assises spéciale de Paris l'a reconnu coupable de complicité, 7 ans après les meurtres de Toulouse et Montauban. Le deuxième accusé, Feta Malki, un délinquant multirécidiviste, a lui été condamné à 10 ans de prison. Deux policiers se sont suicidés hier, une femme de 48 ans à Montpellier, un homme de 25 ans à Villejuif dans le Val-de-Marne. Depuis le début de l'année, 28 policiers se sont ainsi suicidés. Une intersyndicale appelle les gardiens de la paix à se rassembler aujourd'hui devant leurs services respectifs en hommage à leurs collègues. Hommage aussi fait hier aux pompiers qui sont intervenus sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ils seront faits citoyens d'honneur de Paris, disait hier la maire Anne Hidalgo lors d'une cérémonie devant l'hôtel de ville. Aux États-Unis, une version expurgée du rappeur Mueller vient d'être rendue publique. Et s'il exonère le président américain de toute collusion avec la Russie lors de sa campagne de 2016, le procureur Mueller détaille tout de même des pressions troublantes faites par Donald Trump sur l'enquête. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30 tout à l'heure. Notez aussi que le premier ministre malien ainsi que l'ensemble de son gouvernement ont démissionné hier, 4 semaines après le massacre de Peul par des individus armés dans le centre du Mali. La présidence ne précise pas le motif de cette démission. Avant-hier, des parlementaires maliens évoquaient déjà la possibilité de voter la défiance contre le gouvernement à cause de son échec dans la lutte contre les milices ethniques et contre les djihadistes.
À l'occasion du 500e anniversaire de sa mort, Une vie, une œuvre retrace le parcours de Léonard de Vinci, l'un des personnages les plus célèbres au monde, les plus énigmatiques, entouré de légendes et de paradoxes.
Léonard ne finissait rien. Mais ne pas terminer, c'est une liberté extraordinaire.
Une poésie de l'inachevé, Léonard de Vinci, Une vie, une œuvre, ce samedi à 15h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, Toufik Hakem vous parle bande dessinée ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les vendredis, le réveil culturel est consacré à l'actualité de la bande dessinée. Ce matin, on va parler de Après le printemps, bande dessinée éditée par Futuropolis. Ce récit en forme de reportage raconte la Tunisie de l'après-révolution à travers 4 jeunes Tunisiens partagés entre désenchantement et colère 2 ans après la chute de Ben Ali. Pour cette bande dessinée, l'autrice Hélène Aldeguer a obtenu le prix France Culture des étudiants, le prix de la bande dessinée politique, et elle est notre invitée ce matin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Hélène Aldeguer.
Bonjour.
Et félicitations.
Merci.
Le prix France Culture des étudiants vous a donc choisi pour obtenir le prix cette année, le prix de la bande dessinée politique. Après le printemps, une jeunesse tunisienne sortie en début de saison chez Futuropolis n'est pas votre première bande dessinée qui parle de la Tunisie, puisque vous étiez déjà rendue en Tunisie pendant la Révolution.
En fait, je m'étais rendue en Tunisie pendant mes études exactement et j'avais passé plusieurs mois avec les journalistes de Newet, qui est un journal indépendant à Tunis, et j'avais fait mon projet de diplôme sur les élections de 2014. J'étais retournée là-bas pour voir un peu comment ça s'était passé.
Et pourquoi avoir choisi la Tunisie ?
Pour des raisons personnelles. D'abord, moi j'avais été en Algérie et c'est vrai que j'étais majeure au moment des révolutions et j'ai eu envie de voir ce qui se passait en Tunisie et j'ai pris contact avec les journalistes de Newet et j'y suis allée et ils m'ont vraiment accueillie. J'ai vraiment le coup de cœur pour ce pays, j'y suis restée et retournée plusieurs fois.
Alors là, ce que vous racontez dans Après le printemps, c'est le début de la désillusion de vos protagonistes, hein. Donc on imagine que ces deux filles et deux garçons, ces 4 jeunes dans le vent de la contestation tunisienne, sont proches de vous parce que vous allez nous raconter leur quotidien face à la désillusion. 2 ans après avoir chassé Ben Ali, les Tunisiens qui sont sous le gouvernement du parti islamiste à l'époque, Nahda, donc, ne voit pas d'amélioration de leur vie.
Oui, je pense que ces personnages ont été recréés à partir de gens que j'ai rencontrés et avec qui je me suis liée d'amitié. Que ce soit des gens rencontrés à Tunis, donc la capitale, ou des gens finalement de milieux plus ruraux, puisque j'ai pas mal passé de temps aussi dans le gouvernorat de Gendouba, qui est à la frontière algérienne. Et des profils très différents finalement entre l'intérieur et la capitale, et j'avais envie de rendre ça leur lutte et leur combat quotidien.
C'est-à-dire que même si cette bande dessinée se présente comme une bande dessinée du réel, de reportage, ça reste quand même une fiction.
Oui, c'est une fiction inspirée de faits réels. Je pense que je voulais vraiment... toute cette chronologie de l'année 2013 avec des faits politiques très concrets, qu'on apprenne des choses aux lecteurs et en même temps avoir cette fiction de jeunes qui mènent un peu leur vie comme ils peuvent, recréer autour de ce que j'ai pu entendre autour de moi, mes amis là-bas. Et cette liberté finalement de faire de la fiction m'a permis de raconter beaucoup de choses et de prendre certaines libertés en ayant quand même le contexte politique.
Alors le contexte politique, pour ceux qui l'auraient oublié, ce qui est bien dans cette bande dessinée éditée par Futuropolis, c'est qu'elle se termine par une chronologie. Donc on est remis dans cette période très très précise de l'histoire de la Tunisie, et on suit Myriam, la brillante étudiante en droit, et son copain Aziz, qui lui en plus des études s'épuise dans des petits boulots précaires comme les centres d'appel. Et il y a Shaima qui opte pour l'exil quand son copain Saïf, qui est originaire donc de cette petite ville à la frontière algérienne, ne peut pas abandonner sa famille dans la misère. Et donc il y a ces quatre petites histoires, ces histoires de jeunes et derrière l'histoire d'un pays en mouvement.
Oui, c'est ça moi qui m'a vraiment frappée quand j'y étais, c'est que ces jeunes-là, ce sont mes amis, ils ont mon âge, ils font des études, ils essayent de trouver un boulot, ils ont des galères comme moi, et en fait ils sont face à un enjeu bien plus énorme et des luttes assez incroyables de mon point de vue, c'est-à-dire une nouvelle démocratie, une nouvelle conscience politique, et comment les deux se rencontrent finalement, l'intimité et la grande histoire.
Alors, parlez-nous de vos personnages, Hélène Aldeguer. Allez, on commence par Myriam.
Oui, je pense que j'avais envie de montrer d'abord que c'est un peu le personnage porteur d'espoir du livre. Déjà, c'est une femme, et en Tunisie, comme dans beaucoup de pays, les femmes sont très diplômées, souvent majeures de promo, ce qui est son cas. Elle fait des études de droit, elle veut être avocate, elle a des modèles, ce qui est bien en Tunisie, parce qu'il y a... Je parle de Rehane Esraoui, qui est une grande avocate des droits de l'homme, et pour elle, c'est aussi une forme de projection de se dire qu'il y a des femmes avocates qui ont réussi, qui sont très connues. Et elle, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elle veut rester en Tunisie. C'est dur, mais elle a des choses à faire là-bas, et elle y croit. Elle a pas sa langue dans sa poche, elle a un engagement politique, et pour moi, c'est vraiment le personnage porteur d'espoir du livre.
Et son petit copain, Aziz ?
Lui, par contre, c'est plus difficile. D'abord, il vient du sud, donc du Gergis, une ville tristement connue parce qu'il y a beaucoup de départs de migrants et il y a parfois des corps qui reviennent sur la plage. C'est un épisode dont je parle dans le livre.
Il est représenté, il est dessiné, c'est les moments dramatiques de
oui,
cette bande dessinée.
Je pense que c'est ça qui est important pour moi de le montrer, c'est que c'est l'histoire d'un couple et en même temps, il y en a un, quand il rentre voir sa famille qui se balade sur la plage, et ben, il va voir une coque de bateau cassée. Et tout de suite, on se rend compte que ils sont face à quelque chose de vraiment très dur. Et lui, il voit sa copine qui se bat, qui arrive. Et lui, en même temps, il n'y arrive pas. Vous mentionnez les centres d'appel. C'est quelque chose d'assez incroyable en Tunisie. Je pense que tous les jeunes sont passés par un centre d'appel pour avoir un tout petit peu de sous.
Oh, mais alors, quel symbole de la mondialisation? Parce que on voit bien que ces jeunes, si à un certain moment, ils ont cru qu'ils allaient changer la donne dans leur pays, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas changer le monde. Et là, on voit bien que ces petits boulots précaires qu'on réserve pour les pays du Sud, eh ben, ça ne rend heureux personne.
Oui, ça, je pense que c'est assez fou. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est toujours énervé de recevoir des coups de téléphone, de démarchage. Mais là-bas, c'est un phénomène assez incroyable. Et le plus terrible, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui restent là-bas parce qu'en fait, il y a tellement de chômage et tellement de travail qui n'est pas déclaré, qui a aucune sécurité de l'emploi, que finalement, le centre d'appel, c'est quand même un endroit où il va y avoir un salaire, où ils vont pouvoir payer un tout petit loyer. Il faut savoir qu'à Tunis, la vie est extrêmement chère, que le dinar a été dévalué de façon incroyable et que toutes les denrées alimentaires ont explosé, que justement, le jeune personnage du milieu rural montre finalement à quel point le chômage, dans certaines zones, c'est presque 40%, donc c'est presque un sur deux qui n'a pas de travail et qu'en effet, la plupart des jeunes pense quand même à émigrer et à quitter la Tunisie.
Comme Shaima, par exemple.
Voilà, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle le fait en trouvant un stage, en ayant son visa d'études, donc de façon tout à fait légale. Et pour elle, c'est une avancée dans sa démarche professionnelle et scolaire. Il y a aussi des gens qui pensent à faire ça de façon illégale, malheureusement. Mais il y a quand même des personnages qui veulent rester, et ça, c'est important de le montrer. Je pense que la société civile est très active en Tunisie. C'est dur et ils critiquent beaucoup, mais ça montre qu'ils s'y intéressent. Et même s'il y a beaucoup d'abstention aux élections, ils sont quand même toujours vigilants de ce qui peut se passer au niveau de l'actualité politique.
Vous étiez donc sur place, Hélène Aldeguer, c'est bon de le rappeler, à ce moment très très précis, parce que là, les islamistes sont arrivés au pouvoir, les gens commencent à se poser la question, est-ce qu'on a fait la révolution pour avoir An-Nahda au pouvoir? Et pour dire les choses franchement, on commence à voir des gens qui se dépolitisent au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, et ce qui les intéresse, c'est vraiment la survie, c'est-à-dire ils veulent juste s'en sortir économiquement.
Oui, je pense que, par exemple, ce qu'on oublie, on connaît Mohamed Bouazizi qui s'est immolé, mais on oublie les cas d'immolation tous les ans. C'est-à-dire que jusqu'à 2014, il y a à peu près une centaine de cas d'immolation qui sont répertoriés en Tunisie, ce qui est énorme, et ça, on n'entend plus parler. Mais ça montre bien le désespoir, finalement, de la jeunesse. Et une dictature aussi longue, ça ne s'efface pas aussi rapidement. Et la jeunesse est encore vraiment la victime de corruption, de violences policières. Elle a du mal à trouver du travail, à trouver sa place. Et c'est vrai qu'elle était porteuse d'espoir et elle est déçue.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
احنا في بنديلان عايشين الهند في الهند غطسين شوشة في الحرية بارا 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 بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان كما قال الصوفية بارا را 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 احنا في بنديلان عايشين الهند في الهند غطسين شوشة في الحرية بارا 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 بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان كما قال الصوفية السمعية صوفية يا رمز الوطنية وين تشوفي بالأمان بارح برك براكوني فكوا لي تليفوني روح نبكيك المخنان قلت نمشي نشكي توا توا ياخذوا لي حقي بالقوة راني في بلاد حقوق الإنسان قالوا لي يزيم الدوا يا اخي اللي يجي يشكي هو ارجع كي تولي سيب لا 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 لا.
Après le printemps, une jeunesse tunisienne était une bande dessinée éditée par Futuropolis. Hélène Aldeguer, vous êtes bien sûr l'autrice de cette bande dessinée, mais vous êtes aussi le témoin de cette période entre espoir et désillusion, parce que on est 2 ans après la révolution du 14 janvier en Tunisie, avec les personnages de votre bande dessinée. Mais la désillusion, c'est la crise économique, c'est l'arrivée d'An-Nahda au pouvoir. Et c'est surtout, et vous le montrez très bien dans votre bande dessinée, c'est la fin de la révolution égyptienne. Le maréchal Sisi vient de s'installer au pouvoir. Et les Tunisiens, comme les Égyptiens, je suppose, comprennent que la parenthèse révolutionnaire est refermée.
Oui, je pense que ça a été très fort le moment d'El-Sisi à la télévision parce que c'était au moment où justement les Tunisiens et les Tunisiennes mettaient en cause leur gouvernement qui était Narda et qui avait certaines proximités avec les frères musulmans et tout de suite ils ont fait les liens évidemment. Et ce qui est intéressant tout de même de noter, c'est que justement en Tunisie, quand on discute avec les gens, on voyait des gens qui disaient c'était mieux avant, ce genre de choses un petit peu qu'ils regrettent. Et finalement, cela faisait un peu appel au mythe de la sécurité, au miracle économique tunisien qu'on entendait beaucoup aux périodes de la dictature, qui s'est soudain effondré, bien sûr, parce que les conditions économiques ont chuté. Et aussi qu'il n'y avait plus cet outil de propagande qui permettait de mettre en avant un mythe sécuritaire et un rapport au tourisme, un miracle économique qui était en fait un leurre.
Pour raconter cette histoire, pour revenir sur cette période, vous avez opté pour le noir et blanc, classieux, la ligne claire. Est-ce que ce traitement graphique, c'était une manière aussi de montrer que vous étiez dans le réel, dans la restitution du réel, ou c'est votre style, Hélène Aldeguer?
Alors ce type de dessin-là, évidemment, déjà c'est mon style, mais j'avais envie d'utiliser le noir et blanc peut-être parce qu'il y a une forme de très direct, un peu brutal parfois, quelque chose d'un très assez fin, assez naïf parfois. Et finalement, d'aller droit aux choses, c'était une façon pour moi d'incarner mes personnages, d'être vraiment juste dans le contraste. Et c'est ça qui m'a plu dans ce traitement.
Vous parlez arabe, Hélène Aldeguer ?
J'apprends, oui. Même ouais. Si je suis confrontée aux difficultés des dialectes et de l'arabe classique. En Tunisie, je m'étais mise au dialecte. Puis de retour en France, j'ai repris le classique. Et puis voilà, faire le pont entre les deux, c'est un jeu, c'est rigolo, mais j'apprends.
تفرك سوف عيوبي كان ربي يستر لذنوبي كانت تحبى بريتوبي لتولي كالكلب سكوبي نخدم ونعبي في جوبي ما عندي تقولي حبوبي ما نبكيش على مكتوبي مكسبنا الصحة تزبوبي شعب يدوى يذنوبي نكفي الكل الكل سوبي ولا يكشلت عكاروبي والقعدة يفلحوا معروبي في راسي يستريس ومهنتي في الهز الكاس وعسبالك حمدي النجاز ومنفلم بالبي الركزيز حقارة مع الحقارة والحقار يموت الذليل والمحقور يموت الذل ونحنا اللي نعيشوا بالليل بلادكم انظفاك وزنبي الحومة مش اللاك كرهونا كان الوزاك وحومة أقوى من العراق المركيكي أوان وغنيتي في وذنيكم كرهونا ذري السفلان انت على بهم وفي عينيكم أردت مانشستر بيبر وضحكي عدي مان ما نلعبش بك سنايبر نكسينو ناحية تخمام الجن مانيش سنايبر ذري فيسبوك وتويتر كابو عصيح مسيطر ودواكم مو عند البيطر ساحي نعمر ونشرجي نقتل الكلب والخرشي كي نمرض مانشدش فرشي خليني نخرج لي نرجي اسمي الأبيض مش ستنجي ستالي باركي هما بونجي عبادة تبكي عكا انجي عالم دارو كاروانجي ولادك في شفوفات اما يمنع عم يعيشوا سرقونا بالكوستيمات قالوا موتوا ما نعطيشو عديني على التحريض نيكمك عمري ما ريضنا هو اكبر مريض اما عكلام الحق بالعيد هو اللي شلق وقتلوه وارتاحوا منه والباجي اللي معاها سرق وما خمم في شي بوسنه نكتب على المحكوم ولك لتو بلاد الروم نصبروا في بعضنا بكلمة والله لحال يدوم لحام الحومة يبكي من سحبو راهو مكدوم نالي العزوزة وسطني كيف نطيح وحدك تقوم ماشي في طريقي وحدي وما هنتش باش تكون معايا نحنا اللي سابين
Aujourd'hui, est-ce que ces jeunes qu'on rencontre dans votre bande dessinée sont dans une autre phase? Comment va la Tunisie aujourd'hui
Je pense qu'à un moment important, ça a été les élections municipales de mai 2018. C'était important d'abord parce que c'était un enjeu de décentralisation au niveau de la Tunisie. Il faut savoir que vraiment la capitale et le littoral concentrent tous les investissements et que l'intérieur est marginalisé. Et pour les Tunisiens et les Tunisiennes, c'était important. Il y a eu beaucoup d'abstention. Il y a eu quand même vraiment une preuve que les deux grands partis majoritaires sont assez délaissés par l'opinion publique, Narda et Enid et Tounes finalement. Qu'il y a des partis indépendants, ce qui est une très bonne nouvelle, qui commencent à prendre leur essor, particulièrement dans la région de Tunis, à Riana, où là il y a eu beaucoup de pourcentages pour des partis indépendants. Mais que les élections présidentielles arrivent à l'automne 2019 et que, a priori, il y aura certainement beaucoup d'abstention.
Mais ça veut dire que la désillusion continue? On est dans la phase désenchantement?
Eh bien, pour le moment, ceux que je connais, en tout cas, ne sont pas très enchantés. Ça, c'est sûr. D'abord, parce qu'ils sont représentés par un homme qui a plus de 90 ans, quand même.
Mais qui a décidé de ne plus se représenter.
Voilà. Hein. Mais c'est quand même assez...
Il a pris note de ce qui s'est passé dans le pays
voisin.
Voilà,
dans le pays voisin, je pense. Mais c'est vrai que c'est assez fou de dire que des populations aussi jeunes sont gouvernées par des personnes vraiment d'une autre génération. Comment peuvent-ils se projeter sur ce genre de personnalité? Donc oui, il y a quand même encore beaucoup de désillusions, mais il y a des luttes quotidiennes qui sont pas abandonnées. La société civile est quand même très active. Il y a beaucoup d'associations, des médias indépendants. C'est entre deux. J'ai pas envie de perdre espoir, mais c'est vrai que c'est dur. Avec la dévaluation du dinar, surtout, la situation économique est très difficile.
Dans cette bande dessinée, après le printemps, une jeune tunisienne, Hélène Aldeguer, vous évoquez, mais d'une manière très fine, le regard que peut porter un occidental sur la situation en Tunisie, en rappelant, en mettant en scène justement cet épisode des Femen qui débarquent en Tunisie, alors a priori pour la bonne cause, mais vous semblez dire que c'est pas si évident que ça.
Ça a fait de gros débats, oui, la venue des Femen pour soutenir Amina, la jeune Tunisienne Femen, du coup, qui a été accusée et enfermée. Et je pense que ce qui était intéressant, c'est que Amina n'a pas été libérée et les Femen ont été libérées. Donc la question a été de savoir, est-ce que cette action-là a été
efficace ou pas.
Voilà. En n'oubliant pas non plus qu'il y a des luttes féministes en Tunisie et des organisations. Par exemple, Amina a été défendue justement par Razia Nasraoui, qui est une grande avocate. Il y a les femmes démocrates tunisiennes. Donc il y a vraiment aussi une scène féministe active en Tunisie qui estime qu'elle n'a pas forcément besoin, entre guillemets, de féministes européennes qui viendraient, qui connaîtraient pas réellement la Tunisie finalement. C'est-à-dire que les Françaises qui étaient venues n'avaient pas forcément d'attache sur la Tunisie, ne s'étaient pas vraiment renseignées. Et je pense que c'est ça qui a choqué un peu le peuple tunisien, c'est qu'il y avait un côté...
Non, mais ce qui a choqué, c'était aussi les seins nus.
Oui, ça, évidemment.
Et vos personnages disent que c'était pas une bonne idée, qu'à la limite, c'est insultant pour la culture tunisienne.
Oui, je pense qu'il y a d'abord la première réaction, c'est-à-dire que pour eux, c'est très choquant parce qu'il y a une forme de pudeur en Tunisie. Ensuite, ça a été aussi pour eux pris comme une forme de mépris, je pense, en disant que c'est médiatique et que ça ne porte pas le message. Donc, à plusieurs niveaux, finalement, ça a été plutôt globalement rejeté, même si ils disaient que, enfin, des associations ou des collectifs se sont montés pour dire il faut pas les enfermer. On veut la liberté d'expression pour tout le monde, que ce soit pour une Tunisienne ou des étrangères. Mais c'est vrai que globalement, ça a été reçu avec une grosse distance parce que aussi, quand on est français et qu'on arrive en Tunisie, c'est pas anodin. Et le discours qu'on porte, il faut savoir d'où on vient, comment on le porte. Et
vous êtes posé ces questions, Hélène Aldeguer?
Oui, ça c'est évident que quand on arrive là-bas, qu'on est une femme française et qu'on arrive dans un pays d'abord où les gens vont vous parler français, en fait. Ils vont pas vous parler arabe, même si vous essayez d'apprendre l'arabe, ils savent que vous êtes française et eux, beaucoup parlent français. Tout de suite, on se dit, comment se fait-il qu'en tant que français, je m'attends un petit peu à ce qu'on parle français en Tunisie, dans un pays pourtant arabophone, où tout va être écrit en français. Il y a eu un débat dernièrement sur l'arabisation en Tunisie, à Tunis particulièrement pour les devantures de magasins, d'arabiser les devantures parce que certaines sont écrites qu'en français qu'en arabe. Et il y a eu de gros débats d'identité. Donc la langue française et le fait d'être un touriste français, c'est jamais anodin. Et il faut jamais, dans mon sens, arriver en ayant l'air de donneur de leçons, par exemple, ou de pas connaître et de ne pas écouter, finalement. C'est-à-dire d'y aller en pensant qu'on connaît déjà et qu'on est déjà un petit peu en terrain familier. Alors qu'ils ont beaucoup à nous apprendre et que la Tunisie, ce n'est pas la France. C'est vraiment un autre pays et on a beaucoup, beaucoup à apprendre.
Vous ne vous mettez pas en scène dans cette bande dessinée, hein ?
Oui, oui, tout à fait. Là, c'était l'idée de donner des voix aux gens que j'ai rencontrés. En fait, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont marquée. Et j'avais envie de porter ces voix-là et particulièrement les voix justement du milieu rural parce que c'est des voix qui sont assez peu portées et vraiment oubliées. Et c'est des gens à qui je me suis beaucoup attachée parce que c'est pas forcément le même débat que la capitale, mais c'est tout en politique. Et c'est vraiment avec beaucoup d'intensité qu'ils portent leur propre lutte, que ce soit dans des milieux agricoles ou plus populaires.
Cette bande dessinée, après le printemps, elle a été lue par vos amis, distribuée en Tunisie ou pas encore ?
Alors je l'ai évidemment en fait en cours de l'écriture, je consultais mes amis tunisiens pour voir aussi évidemment au niveau du contexte, mais même aussi en termes de est-ce que c'est crédible finalement ces jeunes-là, comment ils discutent, de quoi ils parlent, des petites expressions vraiment typiques des Tunisiens. Je parle un moment de Myriam qui parle des chez nous là-bas, c'est quelque chose que j'ai entendu en Tunisie et que j'ai jamais entendu en France, et j'avais envie de remettre quelque chose de vrai dans les discussions de jeunes. Et ils l'ont lu après aussi, une fois fini. Elle a été envoyée en Tunisie, après, a priori c'est plutôt à la librairie d'El Marsa ou dans la capitale finalement, parce que bon, c'est un tarif préférentiel, mais je n'imagine pas vraiment que ça coûte cher, une bande dessinée. Donc acheter une bande dessinée en Tunisie, c'est un petit milieu. Elle est en français en plus, parce qu'elle n'a pas été traduite évidemment, donc c'est sûr que c'est assez restreint. Je pense que c'est symbolique, moi ça me fait plaisir qu'elle soit envoyée en Tunisie.
Vous vous tenez au courant toujours de ce qui se passe en Tunisie, Hélène Aldeguer ?
Bah oui, de loin, là ça fait quelques mois que j'y suis pas allée, mais j'aimerais y retourner. Et puis par mes amis aussi, toujours de discuter, c'est là que je vois qu'il y a un désenchantement et en même temps il y a beaucoup de... Encore beaucoup de volonté de critiquer, de débattre, de parler de tout ce qui peut se passer. Dès qu'il y a des scandales, il y a quand même des médias. Je continue de suivre le média Newet. J'ai dessiné pour Inkifada, un autre média tunisien. Donc plusieurs sources pour un petit peu savoir ce qui se passe.
Pendant la Révolution, on a vu apparaître des talents de dessinateurs et de dessinatrices en Tunisie. Est-ce que la bande dessinée, le dessin sont présents dans les librairies de Tunis ou des autres villes du pays?
Je pense déjà Willis from Tunis.
Bien sûr, Willis from Tunis s'est fait connaître par son semblable.
Elle est extrêmement connue, oui, c'est vraiment super avec son fameux chat. Il y a Zed aussi, tous les deux sont vraiment, je pense, deux figures extrêmement connues qui ont fait des expos en France aussi, à Angoulême. Donc une vraie voix vraiment caustique de la Tunisie. Il y a aussi le Lab 619, c'est de la bande dessinée en fait tunisienne et qui parle beaucoup de faits sociétaux. Moi je suis assez admirative parce que faire de la bande dessinée en France c'est pas facile, mais alors en Tunisie ça doit être vraiment très dur, vraiment porter ça c'est... Il faut avoir du cran et c'est un travail collaboratif, donc c'est vraiment super. Il y a des artistes qui se bougent, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Et vous, Hélène Aldeguer, comment êtes-vous arrivée à faire de la bande dessinée? S'il fallait vous poser une question sur votre parcours.
Oui, en fait, j'ai toujours voulu... Moi, c'est comme ça que j'ai envie de raconter des histoires et c'est comme ça que je le fais, avec des dessins. J'ai fait des études d'illustration à l'École Estienne à Paris et voilà, j'ai décidé la bande dessinée plus que l'illustration parce que j'avais envie vraiment de faire des gens qui discutent et qui vivent des choses.
Merci Hélène Aldeguer. Après le printemps, une jeunesse tunisienne est éditée par Futuropolis et votre bande dessinée a obtenu le prix étudiant de la bande dessinée politique, un prix France Culture. On peut réécouter votre entretien en passant par la page du Réveil Culturel où l'écoute en ligne et l'abonnement au podcast sont à votre disposition en quelques clics. Seulement, la coordination du Réveil Culturel est assuré par Corinne Amar, assisté par Maël Ray, réalisé par Vincent Abouchard avec à la technique ce matin Valérie Lavalard. On se retrouve lundi à la même heure et en compagnie de Jean-Paul Kaufmann pour le lundi de Pâques férié. On ouvrira les églises fermées de Venise. Bonne fin de semaine, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. بسك زايتين ديما شانعين حتى ما عناش فلوس وديما حامدين ربي عليهم عاملين في طريقنا ماشي قلوبنا صافين وما عنا حاجة ينخبي ولا عايشين احسن من الاخرين مش كيما اللي عنده الفلوس وعايش في كوبي شبيكم ناسين رحنا موعدين صرنا طلوع وقت لكم مش هرب الحمد لله ما لحسناش الحمد لله ما رقصناش الحمد لله حتى كي طاحت بينا روحنا ما بعناش ربحناكم برشا ببلاش حتى بفلوسكم ما لقيتوهاش زرعنا جينا نلمو بصابتنا وحد ما يقول عليه في غضوة خير نملي مكتب ربي سير نحلج وين عندير ولا بس الميم في الحرير ما اخترتش نعيب دليل خوك مانيش كل مشاهير حاكي نفكو بدراعي وما نطيح خشميك نغير شوف في غضوة خير نملي.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron.
L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions.
Est-ce que tu voudrais être grande ?
Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent?
Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren, ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump a voulu limoger le procureur de l'enquête russe. Son rapport Mueller, le dit, mais il ne met pas en cause le président américain dans une éventuelle collusion lors de sa campagne présidentielle en 2016. Explication de notre correspondant à Washington dans un instant. Nous vous expliquerons aussi le verdict dans le procès en appel d'Abdelkader Merah. Il est condamné à 30 ans de réclusion pour complicité des crimes de son frère Mohamed Merah. Et puis, où en est l'enquête sur les bébés nés sans main ou sans avant-bras en France? Les parents étaient reçus hier à Paris, sans en apprendre grand-chose, vous l'entendrez. Après 22 mois d'enquête aux États-Unis, le rapport Mueller a finalement été rendu public hier soir. 448 pages, dont certaines ont été caviardées pour respecter le secret de la procédure, mais l'essentiel est connu désormais. Game over, a répondu Donald Trump hier, blanchi des soupçons de collusion avec la Russie pendant sa campagne présidentielle. Pourtant, sur les volets entrave à la justice, le procureur spécial Mueller n'est pas aussi catégorique. Il évoque dans son rapport plusieurs scènes lors des le président américain a tenté de peser sur le cours de la justice. Florilège de ses réactions avec Grégory Phillips.
Le 17 mai 2017, au matin, le numéro 2 du département de la justice, Rod Rosenstein, annonce au président qu'un procureur spécial indépendant vient d'être nommé pour enquêter sur les soupçons de collusion entre son équipe de campagne et la Russie. Dans le bureau ovale, Donald Trump s'effondre dans son fauteuil. « Je suis foutu, c'est la fin de ma présidence », déclare-t-il, selon le témoignage d'un employé du ministère. Un mois plus tard, le 17 juin, Trump téléphone à l'un des avocats de la Maison-Blanche, Don McGahn, et il lui demande d'enclencher une procédure pour limoger Robert Mueller. Le conseiller refuse, mais l'ordre a bien été donné. Tout au fil de ces 448 pages, d'autres exemples sont cités. À plusieurs reprises, Trump a suggéré à ses collaborateurs de mentir à la presse ou devant le Congrès. Au total, le procureur spécial recense une dizaine d'incidents de ce type. Mais il conclut, si nous étions certains que le président n'avait pas fait d'entrave à la justice, nous l'aurions écrit. Or, nous n'avons pas pu parvenir à cette conclusion. En clair, les enquêteurs ne veulent pas trancher sur une éventuelle obstruction de la part du président. Ils laissent au Congrès le soin de le faire.
Le Premier ministre au Mali, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, ont démissionné hier. Des départs qui interviennent 4 semaines après le massacre de Peul par des individus armés dans le centre du pays. Une femme de 29 ans a été tuée par balle cette nuit dans une fusillade à Londonderry, en Irlande du Nord. Cela s'est passé lors d'incidents entre émeutiers et forces de l'ordre. La police locale ce matin y voit un incident terroriste. Les émeutes avaient été déclenchées par une perquisition menée dans un quartier considéré comme un fief nationaliste. Après avoir réduit de moitié sa prévision de croissance, Berlin inquiète le Conseil national de la productivité, ses excédents plus précisément. Ce Conseil de la productivité produit un rapport sur chaque pays de l'Union européenne. La France, par ailleurs, est le pays où cette productivité est la plus forte, mais comme partout, elle ralentit. Et là aussi, le rapport alerte sur de possibles failles structurelles dommageables qui pourraient survenir en France. L'économiste Philippe Martin préside le Conseil national de la productivité, ainsi que le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre Édouard Philippe. Philippe Martin explique ses inquiétudes.
Il y a sur la France en particulier une spécificité qui peut expliquer le ralentissement de la productivité, et on met l'accent sur la question des compétences, de l'éducation, où là clairement la France fait moins bien que les autres pays de l'OCDE. Donc là c'est un problème sur la productivité, parce que on sait que les compétences, les modes de gestion, l'éducation, c'est ce qui prédit très fortement la qualité des produits et des services, hein, parce que la croissance, c'est pas seulement de la quantité, c'est aussi la qualité. Et donc ça, c'est un problème spécifiquement français. La deuxième conclusion qu'on fait, c'est que les questions de déséquilibre à l'intérieur de la zone euro, le fait en particulier qu'il y ait des comptes courants très excédentaires sur certains pays, au premier titre l'Allemagne, est un problème pour la zone euro et pour la viabilité de la zone euro dans le futur, parce que si on ne règle pas ce problème, on va revenir à ces situations qu'on a déjà vécues en 2011, 2012, 2013, où parce que des pays ont des problèmes de financement extérieur à cause de ces comptes courants déficitaires, on va revenir à des situations où potentiellement on va se poser la question, est-ce que ces pays peuvent rester dans la zone euro? Donc on prend un risque à ne pas gérer ces problèmes de déséquilibre, et c'est un risque qu'il faut pas prendre parce que l'euro est quand même quelque chose qui est très important pour tous nos pays.
L'économiste Philippe Martin, il répondait à Marie Viennot. Fin du procès en appel d'Abdelkader Merah hier soir et un verdict surprise a été rendu. Abdelkader Merah est reconnu coupable de complicité dans les crimes commis par son frère Mohamed Merah en mars 2012. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle contre 20 ans en première instance où seuls les faits d'association de malfaiteurs terroristes avaient alors été retenus. La Cour y a donc ajouté la complicité, Corinne Audouin.
L'élément central retenu par la Cour, c'est le vol du scooter. 5 jours avant le premier assassinat, Abdelkader Merah a facilité ce vol, estime la Cour d'assises d'appel, alors qu'il était parfaitement informé des projets criminels de son frère. À son retour du Pakistan fin 2011, Mohamed Merah avait en effet confié à son frère être prêt à lever l'étendard. Pour la Cour, la formule était sans ambiguïté. Elle estime qu'Abdelkader Merah lui a donc apporté aide et assistance dans la commission des 7 assassinats de Toulouse et Montauban. Une aide attestée par les rencontres entre les deux frères, juste avant et pendant les crimes. Et s'il n'y a trace d'aucun échange téléphonique entre eux, eh bien c'est la preuve pour les magistrats que les frères Merah ont appliqué les principes de prudence édictés par la propagande djihadiste retrouvée chez Abdelkader Merah. 12 pages de motivation aux antipodes du verdict de première instance qui constatait un manque de preuves quant à l'implication directe d'Abdelkader Merah. C'est incompréhensible, a commenté son avocat Éric Dupond-Moretti, regrettant une justice qui cherche à avoir valeur d'exemple. C'est un signal fort et une victoire contre le terrorisme, ont salué les avocats des parties civiles.
Et notons que le deuxième accusé, Feta Malki, a été condamné lui hier à 10 ans de prison. Le président Emmanuel Macron a salué l'exemplarité des pompiers et des autres personnes mobilisées, toutes celles qui ont sauvé in extremis des flammes la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir. L'édifice souffre encore de 3 points de fragilité majeure. Comment la reconstruire? L'architecte Jean Nouvel sera l'invité de Guillaume Erner dans les matins de France Culture à partir de 7h40 tout à l'heure et puis nous reviendrons sur cette reconstruction possible avec Jacques Munier dans son journal des idées après ce journal. Après le grand débat national, la grande discussion, même si l'on ne connaît officiellement toujours pas les mesures voulues par Emmanuel Macron pour répondre aux Gilets jaunes, un député de la majorité annonce déjà une série de réunions avec les partenaires sociaux, sorte de conférence sociale pour tirer de nouvelles conclusions avant l'été. Le député La République En Marche de la Vienne, Sacha Houlier, en attend des propositions. Elle viendrait s'ajouter au résultat du grand débat, il l'a dit à Steven Goyer.
Dans le grand débat, il y avait des thèmes qui étaient prédéfinis, il y avait des orientations qui avaient été retenues, et puis il y avait ce qui restait à construire. Et donc, de ce point de vue-là, on aurait un complément pour que ce grand débat se poursuive avec les partenaires. Il y a eu des concertations sur des réformes emblématiques, comme les ordonnances, la formation professionnelle ou l'assurance chômage. On constate que ces concertations n'ont pas toujours donné satisfaction aux partenaires. Il n'empêche que pour construire des nouvelles solutions sur ce qu'était le pouvoir de vivre, sur ce qu'a été les axes qui permettent d'engager la transition écologique, de la rendre soutenable pour les plus modestes, pour les mesures sociales qui pourraient être adoptées en faveur des plus démunis, on a peut-être besoin de davantage de soutien dans le corps social, de davantage d'accompagnement et puis peut-être de plus d'innovation. Et je souhaite que si ce projet comportait cette promesse, eh bien alors que elle puisse être prononcée, en tout cas à l'occasion du discours du président quand il aura lieu.
Un discours qui aura lieu dans les prochains jours, disait cette semaine la présidence. Les familles des bébés nés sans main ou sans avant-bras dans 3 régions de France, toutes se sont retrouvées hier à Paris au siège de l'ANSES pour un deuxième comité d'orientation. Un point sur l'enquête a été fait, mais après 6 mois de suivi, les parents ont maintenant le sentiment que les choses piétinent. Tara Schlegel.
Les familles sont sorties déçues de leur réunion au siège de l'ANSES, l'Agence de sécurité de l'alimentation et de l'environnement. 3 heures de discussion qui n'ont débouché sur aucune nouvelle piste. Santé publique France et l'ANSES ont rappelé aux parents que le comité d'experts, l'organisme chargé justement de formuler des hypothèses de travail, se concentrait pour l'instant sur la littérature scientifique déjà existante autour de ces malformations dont souffrent leurs enfants. Il faudra attendre au moins le 30 juin prochain pour que ces experts tirent les conclusions de leur lecture et élaborent peut-être une nouvelle méthode de travail. C'est trop long, regrette Isabelle Grassin, dont la petite Charlotte est née sans main à Guidel.
C'est très bien que le comité d'experts travaille sur des hypothèses à tester, mais en attendant, il y a déjà des pistes qui pourraient être creusées par rapport à l'eau, par exemple, comme vecteur d'un potentiel tératogène. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas déjà aller travailler sur les zones de Guidel, par exemple, voir si Calan, la ville dans laquelle il y a eu un cas finalement qui n'est pas très loin de chez nous, ben on se rend compte que c'est le même réseau d'eau potable. Donc tout ça, ça n'est pas fait. Et donc on va attendre que les preuves se perdent pour aller faire le travail.
Pour éviter cela, Isabelle Grassin et les autres parents vont continuer à faire pression sur le ministère de la Santé et les autorités sanitaires.
Bloquons la République des pollueurs. Voici le nom d'une action de désobéissance civile qui est prévue ce matin en France par 3 associations de défense de l'environnement, dont Greenpeace. Les détails sont pour l'heure gardés secrets, mais l'objectif est de dénoncer l'inaction du gouvernement en faveur du climat. Les nuages seront encore bas sur les Pyrénées ce matin, mais le soleil se fera une place à la mi-journée. Soleil visible dès ce matin partout ailleurs sur l'Hexagone. Comptez 16 degrés à Lille et à Strasbourg, 17 à Bayonne, 18 à Paris et Lyon, 21 degrés à Marseille dès ce matin. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal,
pardon. Il est 6h40, vous nous avez rejoint pour le Journal des Idées sur France Culture. Et Jacques, le débat sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris est ouvert.
Oui. Pour Benjamin Mouton, ancien architecte en chef de la cathédrale, la reconstruction ne doit pas émaner d'un geste créateur, solitaire et hors sol, mais intégrer la tradition du savoir-faire artisanal français. Il souligne dans Le Monde qu'il faudra se mettre sur les pas des grands architectes, ces géants anonymes qui se sont succédés à partir de 1164 et jusqu'à nos jours pour bâtir cette cathédrale, toujours en renforçant son harmonie, car ils ne travaillaient pas pour eux, mais pour l'architecture, pour l'œuvre elle-même, et d'insister sur la place que doivent avoir les compagnons d'aujourd'hui, maîtres tailleurs de pierre, charpentiers ou verriers, héritiers des bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. Pour autant, l'idée d'une reconstruction à l'identique est illusoire, le bâtiment ayant évolué au fil du temps. Benjamin Mouton rappelle que dans les années 1930, des maîtres verriers ont proposé de remplacer les vitraux installés au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, qu'ils trouvaient trop tristes, par des vitraux plus gais. 3 décennies plus tard, après de longs débats, cela a été accepté. Si ces vitraux très récents ont pu s'intégrer à l'ensemble, ce n'est pas parce qu'ils répètent un vocabulaire ancien, mais parce qu'ils respectent l'harmonie et la composition du lieu. Dans Le Figaro, Paul Thibault évoque même le génie d'une architecture sans architecte et la force plastique de Notre-Dame. La manière parfaite, exhaustive, pourrait-on dire, qu'elle a d'occuper son lieu, de se placer dans le tissu parisien, le récit parisien, avec une autorité sereine, discrète et d'autant plus convaincante. Son site, elle l'occupe complètement, écrit-il. Pour cela, du côté du chevet, elle met en œuvre la capacité du gothique de se répandre grâce à la série des arcs-boutants qui montent et descendent du fleuve à l'édifice et qui tendent la main, peut-on dire, au bout de l'île, à la crypte de la déportation. Et sur la grandiose façade ouest, le gothique s'exprime avec un accent classique, tant les lignes verticales et les lignes horizontales s'y équilibrent, composant un ensemble sur lequel les deux tours se trouvent à l'aise, parce qu'elles poursuivent, achèvent, en y ajoutant seulement un peu de verticalité, mais dans le même registre, une belle mélodie, d'où l'extraordinaire force ascensionnelle que déploie cette composition stable et ancrée. Julien Lecarme, de l'Institut de la Charpente et de la Construction Bois des Compagnons du Devoir, estime quant à lui, sur le site de l'hebdomadaire Le Point, que l'on peut reconstruire à l'identique une tâche courante sur les monuments historiques. La flèche, notamment réalisée sur instruction de Viollet-le-Duc par le compagnon Henri Georges, dispose d'une maquette chez les compagnons. Quant au bois de charpente, la ressource forestière existe et l'on peut laisser pousser tranquille les chênes centenaires, car les matériaux bio et géosourcés doivent être présents sur ce bâtiment. Ce serait un contresens historique, estime-t-il, de ne pas avoir de matière renouvelable au XXIe siècle pour restaurer un ouvrage du XIIIe siècle. Cela dit, la question du temps imparti à ces travaux par le président de la République, 5 ans, revient chez tous les professionnels de la restauration. On est sur une échelle de temps long, souligne Julien Lecarme. Le compagnonnage vient d'ailleurs de là. La plupart des ouvriers ne vivaient pas assez longtemps pour voir l'ouvrage achevé. La sécurisation du site doit d'abord être assurée, une phase de confortement d'extrême urgence destinée à assurer l'équilibre général des volumes a déjà débuté. Tout ce qui doit être étayé, voire déposé pour la stabilisation de l'ensemble. Sous les trompes d'eau déversées par les pompiers, les mortiers en ont bavé. Il faut examiner toutes les jointures de la structure de pierre, notamment celle des pignons qui pourraient entraîner un effondrement des tours. C'est alors seulement que la phase d'expertise pourra commencer. L'enquête elle-même sur l'origine de l'incendie est une tâche de longue haleine dans les décombres de ce qu'on appelait la forêt, en désignant l'immense charpente. Essayez de mettre le feu à une bûche avec une allumette et vous comprendrez l'enchaînement nécessaire à enflammer 1000 mètres carrés de toiture avec une charpente constituée de 1300 fûts de chêne. Autant dire que les touristes affluents aux Jeux Olympiques d'été en 2024 risquent fort de trouver la cathédrale engloutie sous une forêt d'échafaudage. 107 ans, c'est ce qu'il a fallu pour construire la cathédrale, d'où le dicton que rappelle Michel Zinc dans Le Point, on ne va pas attendre 107 ans. Le professeur au Collège de France évoque un conte médiéval tiré d'un sermon de Sully, évêque bâtisseur de Notre-Dame. L'histoire d'un moine qui se promène en forêt et entend un oiseau dont le chant le ravit. De retour au monastère, plus personne ne le reconnaît car il a pris 100 ans dans l'intervalle, une bribe d'éternité au regard de Dieu.
Bonjour.
Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
À 6h45, il est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec au sommaire aujourd'hui les élections en Inde.
C'est ça, deuxième semaine de vote, il y en aura 7 avec des tensions dans les bureaux de vote au Cachemire pour ces plus grandes élections démocratiques au monde. Trois nouveautés, 84 millions de jeunes en plus à séduire, une vraie incertitude sur le succès de Narendra Modi et du parti BJP au pouvoir majoritaire, et puis un climat électoral, donc on le voit plus tendu, de l'espoir à la peur, disait le Washington Post, et on en parle avec vous, Charlotte Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin, vous êtes directrice du programme Asie du Sud du collectif de chercheurs Noria, spécialité des minorités musulmanes en Inde, auteur de Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. Alors là, on voit qu'il y a eu des tirs à balles réelles à Srinagar, la capitale du Cachemire, avec une certaine tension ambiante dans le pays liée aux hindouistes extrémistes ces derniers mois. Dimanche dernier, ce sont 4 leaders politiques qui ont été suspendus pour 3 jours par la commission électorale pour des propos porteurs de division entre musulmans et hindous. Clairement, on est dans un climat beaucoup plus tendu qu'en 2014 cette année.
Oui, c'est-à-dire qu'en 2014, en fait, la campagne de Narendra Modi et du BJP a beaucoup plus été axée sur les promesses économiques pour lesquelles ils s'engageaient auprès de différentes sections de la population, étant donné qu'il y avait aussi un volet plus communautaire, mais qui était, en fait, ces discours étaient pris en charge par Amit Shah, qui est depuis devenu le président du BJP, mais ces discours étaient quand même plutôt en toile de fond, en fait, de la campagne, et pas du tout sur le devant de la scène comme c'est à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a deux types de tensions. Il y a effectivement les tensions identitaire que, enfin, sur les récits identitaires auxquels vous faites allusion, c'est-à-dire notamment la promotion d'une Inde strictement hindoue, au sein de laquelle les minorités musulmanes et également chrétiennes sont discriminées et invitées à se convertir à l'hindouisme ou à quitter le pays. Et d'autre part, il y a également aussi des tensions très fortes d'affrontement entre personnes, puisque Narendra Modi personnifiant beaucoup la campagne autour de son personnage, ayant aussi de toute façon énormément personnifié depuis 5 ans, le gouvernement indien est représenté uniquement par Narendra Modi, quitte à éclipser en fait ses ministres et tout son gouvernement. Donc de fait, c'est une personnalité clivante qui donne lieu à des passes d'armes et à des attaques très très violentes. Par exemple, il y a une campagne, Narendra Modi se présente comme le Chowkidar, c'est-à-dire le gardien de l'Inde. Et là, la commission électorale vient de mettre son veto à une campagne qui a lieu dans le Madhya Pradesh, qui est menée par le parti du Congrès, donc le parti d'opposition, et qui dit que le Chowkidar est un chor, donc c'est-à-dire le gardien est un voleur. Donc il y a vraiment des attaques ad hominem à cet égard, et les 4 responsables auxquels vous avez fait allusion ont aussi été suspendus à cause des attaques qu'ils menaient ad hominem contre Narendra Modi.
Ad hominem et aussi contre la minorité musulmane, hein, 14% oui. De la population. Il y a cette figure, le fameux Yogi Adityanath en Uttar Pradesh, qui est le ministre en chef de cet état, également une figure religieuse qui a eu des propos très virulents. Il parlait de virus vert concernant la religion musulmane. Donc là, on est en Uttar Pradesh, c'est un bastion BJP au nord, alors que le parti de Narendra Modi a perdu justement 3 états-majors dans ce nord de l'Inde l'année dernière et un au sud. Est-ce que selon vous, il faut y voir un durcissement du discours communautaire corrélatif de ce repli électoral ?
Oui, alors c'est-à-dire que Yogi Adityanath, au-delà de ses discours, c'est surtout qu'il a même créé un groupe de vigilants religieux hindous qui vont attaquer les minorités, notamment la minorité musulmane consommatrice ou censée consommer de la viande de bœuf. Donc on est même au-delà du discours, on est complètement dans des attaques physiques. Lui, c'est vraiment la figure la plus clivante et la plus radicale en fait, qui a été mise au pouvoir par le BJP lorsqu'il a remporté l'Uttar Pradesh. Alors il y a deux choses en fait à dire. Il y a d'une part le fait que effectivement le BJP en fait, enfin le gouvernement de Narendra Modi n'ayant pas rempli du tout les promesses économiques qu'il avait engagées en 2014 et créant vraiment des très très fortes insatisfactions auprès de son électorat qui s'est déplacé pour lui en 2014, auprès des paysans, des basses castes, également des chefs d'entreprise moyennes et supérieures qui en fait bénéficient beaucoup moins de retombées économiques positives que ce qui leur avait été promis. Donc pour éclipser ça, effectivement, on remet en exergue en fait le discours identitaire, et pour le caricaturer à grands traits, on explique que le problème c'est pas l'économique, c'est le musulman en gros. Donc pour essayer de resserrer l'électorat. Dans le cas de l'Uttar Pradesh quand même, qui pour le rappeler est l'état le plus peuplé de l'Inde et donc l'état qui envoie le plus de députés à l'Assemblée basse, donc la Lok Sabha, celle pour laquelle on vote en ce moment en Inde, et qui est donc plus peuplé que l'Union européenne, hein, quand même. Alors, oui. C'est juste un des États indiens.
220 millions d'habitants, je crois. Oui.
Voilà, un peu plus même. Et cet État, en fait, qui est le cœur de ce qu'on appelle la Hindi Belt, donc le cœur hindiphone du pays, et qui était acquis au BJP. Et là, en fait, on sent que la campagne, en fait, a vu s'allier deux partis très importants, un parti de caste intermédiaire et un parti de basse caste, qui se sont alliés pour faire opposition à Narendra Modi, enfin au BJP. Donc les alliances sont un petit peu bouleversées. Et du coup, de fait, le BJP accentue encore plus sa campagne identitaire. Mais ce qui se passe en Uttar Pradesh n'est pas réplicable dans tout le pays, notamment pas en Inde du Sud, dont on parle trop peu, alors que ce sont vraiment des États qui sont aussi des enjeux électoraux.
Oui, avec même le Karnataka en Inde du Sud, qui a changé de main également l'année dernière, perdu par le BJP. Justement, si on parle un peu du principal opposant, le parti du Congrès de Rahul Gandhi, il y a eu une forte campagne de décrédibilisation mutuelle. Gandhi accuse Modi d'être un voleur, de manquer de transparence sur la transaction sur les Rafales. Le BJP réplique en accusant Gandhi d'être un prince parachuté en politique. Alors, quels atouts ont les deux et ces partis pour sortir du tête-à-tête et surtout séduire les classes populaires? Est-ce que c'est les qualités de tribun de Modi ou le programme social du parti du Congrès qui vont suffire?
Alors oui, c'est ça, c'est-à-dire que Rahul Gandhi est taxé en fait d'être l'héritier, la dynastie Gandhi en fait, et de s'être donné juste la peine de naître. Pour préciser, et alors le Congrès, on oublie souvent quand même de mentionner, parce que le Congrès et le BJP sont les deux partis qui sont connus en dehors de l'Inde au niveau national, mais il y a surtout une très très forte importance des partis régionaux. Quand on dit régionaux, quand on parle de partis régionaux pour l'Uttar Pradesh, comme je disais, c'est un État qui est plus peuplé que l'Union européenne, donc on parle de très très gros partis régionaux, et ce sont ces alliances aussi qui sont très importantes, et qui détermineront aussi, d'ailleurs, une fois les résultats, il va y avoir ces jeux de coalition qui vont se mettre en place, et on verra aussi après les résultats. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les résultats ne donneront pas forcément une image figée et fixe et définitive de ce que sera le gouvernement indien après, notamment à cause de ces jeux d'alliance. Et effectivement, ce sont deux registres qui s'affrontent, un qui est beaucoup plus personnalisé autour de Narendra Modi, comme on le disait, qui, encore une fois, se présente comme le gardien de l'Inde, le défenseur, dont le programme politique, un programme de campagne extrêmement axé sur la sécurité, ce qui fait écho en fait aux attaques qui ont eu lieu en début d'année, enfin en février, sur une base militaire indienne. Donc on a d'un côté cet aspect sécuritaire, identitaire hindou, et d'autre part sur le parti du Congrès. Le parti du Congrès essaye beaucoup plus de développer l'agenda économique, les réformes économiques. Le parti du Congrès a été conseillé par Thomas Piketty, il propose par exemple le revenu minimum. Donc on est vraiment sur des choses économiques plus profondes et essaye de ne pas trop rentrer dans les débats identitaires, alors à double titre, c'est-à-dire de ne pas projeter une Inde hindoue, ça c'est une certitude, ce n'est pas son cœur idéologique, mais d'autre part non plus à défendre plus mollement les minorités musulmanes et chrétiennes lorsqu'elles sont attaquées. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Et pour dire un mot également des États du Sud, j'ai écouté un collègue indien il y a quelques jours qui disait qu'il fallait pas oublier qu'en 2014, ce n'est pas tant le BJP qui a gagné l'Inde du Nord, c'est-à-dire la Hindi Belt à laquelle je faisais référence tout à l'heure, mais surtout le parti du Congrès qui a perdu les États du Sud. Donc il y a vraiment cette porte sur le sud qui est très très importante, et c'est d'ailleurs pourquoi on a parlé de vraie défaite pour Narendra Modi quand le BJP n'a pas été capable de former ce gouvernement Karnataka, comme vous y faisiez allusion tout à l'heure.
Oui, et justement, avec ce parti du Congrès qui avait subi une défaite très cuisante en 2014, en passant de 262 sièges à 59 à la Lok Sabha, de la même manière qu'on pourrait dire le BJP lui avait eu une ascension assez fulgurante à ce moment-là. Vous parliez des partis régionaux. Justement, il y a ce scrutin dans l'Uttar Pradesh avec, pour le coup, quelques projections dans lesquelles, si le Congrès forme une coalition avec un candidat unique et les partis régionaux, le BJP serait laminé, il passerait de 75 à 5 députés à envoyer à la Lok Sabha. Est-ce que c'est un scénario généralisable au niveau national en Inde ?
En fait, hélas non, enfin je dis hélas, mais parce que c'est pas pour une question d'affiliation, mais au sens où effectivement, en fait, on s'aperçoit que le parti du Congrès a été très regardant sur la modalité d'alliance avec ces partis alors régionaux, mais également le Parti communiste, qui est un parti à l'échelle nationale, mais qui a des incarnations régionales plus ou moins fortes, et a été donc vraiment très précautionneux dans le fait de nouer des alliances, notamment avec le Parti communiste. Donc un des leaders s'en est un peu ému. Et en fait, ce qui peut poser problème, c'est que justement, on se retrouve avec beaucoup triangulaire. Or, le scrutin étant un tour, ce sera vite réglé. Mais voilà, cette alliance avec les partis régionaux peut être à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il s'allie, alors là, a priori, et d'après les projections, et étant entendu que je n'ai pas de boule de cristal, mais d'après les projections, effectivement, ce sera un coup très très dur pour le parti, le BJP. En revanche, dans les cas où les alliances sont plus compliquées et pourraient peut-être se faire éventuellement après les résultats, mais il faut d'abord gagner les élections, là, du coup, ça risque de desservir, en fait, les partis entre guillemets de gauche, ou en tout cas du centre, puisque du coup il y aura un éclatement de ces voix entre deux, enfin le Congrès et son futur ou pas partenaire face au BJP.
Merci beaucoup Charlotte Thomas, directrice du programme Asie du Sud du collectif Chercheurs Noria. Puis on verra sur le site à votre article concernant le Cachemire, cet allié involontaire de Narendra Modi. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Dimanche et après, chaque dimanche à 18h10, Julie Gacon.
Il y a 10 ans encore, on pensait le combat des Indiens d'Amazonie en partie gagné. Des institutions avaient été partout créées pour défendre leurs droits et leurs terres. Aujourd'hui, les peuples autochtones lancent un appel au secours. Il faut, disent-ils, protéger le caractère sacré de la nature, faire cesser les forages et l'agro-business. Sommes-nous prêts à écouter ce que ces peuples ont à nous dire ? Est-ce compatible avec la transition énergétique telle qu'elle se dessine, celle des entreprises et des capitaux ?
Dimanche et après, ce dimanche à 18h10 et sur franceculture.fr.
Pompier. Je suis pompier depuis mes 20 ans. Comme mon père et mon grand-père l'étaient avant moi.
Dans un monde qui a banni la lecture, ordonne de brûler les livres et les maisons qui les cachent. L'entrée en résistance, une guerre qui menace. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury sur France Culture, le concert fiction, avec la participation exceptionnelle du quatuor Ellipse.
Vous alors, vous êtes un sacré numéro. Vous ne savez donc pas ce que c'est que le respect. Et ça, 451 cousu sur ma manche, ça vous dit rien ?
Fahrenheit 451, comme jamais, ce dimanche à 21h et sur franceculture.fr.
6h57, cousu sur l'horloge de France Culture, c'est l'heure des matins.
Cousu. Bonjour Xavier Martinet,
bonjour Guillaume Erner.
Et à tous.
Et si tous nos mots provenaient de l'ENA ?
Eh bien dans ce cas-là, ça serait super pratique Xavier, il suffirait de supprimer l'ENA. Alors supprimer l'ENA, comment, jusqu'où ? Bon, ça on ne sait pas trop encore, vous savez, dans ces annonces pas annoncées d'Emmanuel Macron, une suppression pure et simple semble quand même inenvisageable. Alors, s'agit-il de recréer une école d'administration plus vaste, de laisser les grands corps recruter ? Bref, on n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, à en croire en tout cas le Figaro du jour, c'est que 62% des Français ne veulent pas de la suppression de l'ENA. 62% des Français considèrent que la suppression de l'ENA ne correspond pas aux attentes suscitées par le grand débat. Alors, ajoutons qu'1% des Français sont sans opinion sur la suppression de l'ENA. En tout cas, ils ne se prononcent pas. S'agit-il d'énarques, de fils ou de filles d'énarques, eux-mêmes énarques, puisque c'est un système qui se reproduit. Alors il se pourrait aussi que la critique de l'ENA, et critique de l'ENA qui a débuté, semble-t-il, avec un livre sous pseudonyme écrit par Jean-Pierre Chevènement, soit finalement une figure de style chez les politiques. La critique de l'ENA serait donc un sujet de préoccupation pour anciens élèves de l'ENA, ce qui est finalement plutôt logique, parce que les premiers critiques des jésuites sont les anciens élèves des jésuites. Avouez quand même qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette volonté d'un système façonné par l'ENA de considérer que ce à quoi aspire le peuple, c'est de supprimer l'ENA. Un peu comme si les papes en finissaient avec le Vatican, Maïmonide voulait interdire les yeshivas, ou bien encore si le journal Voici militait pour supprimer Saint-Tropez. Alors des politiques qui décident de supprimer l'ENA, c'est le passage soudain de l'arrogance à la haine de soi. Et ce passage trop brutal ne convainc personne, il cache quelque chose. Un après-moi le déluge, une volonté de laisser les générations futures se débrouiller seules, comme si vous étiez si fier du moule qui vous a fabriqué que vous décidiez brutalement de le casser pour le rendre à jamais unique. 62% des Français tiennent à l'ENA, un chiffre à méditer, l'une des preuves supplémentaires des ambivalences françaises. La France, ce pays qui veut un roi pour lui couper la tête et conserver des énarques pour pouvoir leur taper dessus.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Moins de 48 heures après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, Édouard Philippe, le Premier ministre, annonçait son projet de lancer un concours international d'architecture pour la création d'une nouvelle flèche. Soit, mais comment ? Une nouvelle flèche à l'identique ? Un rooftop, comme le propose, à mon avis, de manière un peu ironique, Marine Le Pen, un rooftop, vous savez, c'est une terrasse de toit. Bref, qu'en faire ? On en parle notamment avec le grand architecte Jean Nouvel, qui sera notre invité aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture. Et je vous souhaite un très bon réveil.